et bienvenue dans ce premier épisode, ce premier podcast consacré aux séries britanniques, mais plus, de manière plus générale même films, œuvres britanniques.
Oui, fiction britannique.
Fiction. Ici Marie.
Salut.
Et moi c'est Jonathan. Et on va vous parler pour ce premier épisode d'un téléfilm en deux parties, diffusé en 64 sur la chaîne ATV en Angleterre. Et écrit et scénarisé, bien sûr, enfin, écrit et scénarisé, c'est la même chose, par Nigel Neal. Nigel Neal, un scénariste dont on parlera, à mon avis, assez souvent dans ce podcast.
Oui, voire même abondamment.
Abondamment. Avant de commencer dans cette petite émission, nous avons, en fait, l'intention de parler de plein d'œuvres britanniques, que ce soit en littérature, en film, en série, en audio. Pourquoi pas? Parce que je sais qu'il y a des émissions de radio ou des fictions radio qui sont vraiment très intéressantes, notamment Aquatermas.
Oh, tout à fait, ou le guide du voyageur galactique.
Ou le guide du voyageur galactique qui a commencé à la radio, bien sûr. Et on va essayer en fait de vous parler de choses qui sont pas toujours connues à l'étranger, enfin en tout cas pour le public francophone. Soit parce que ça n'a jamais été diffusé, parce qu'il y a énormément de programmes qui n'ont jamais été diffusés ou même traduits, et vous donner envie peut-être de vous plonger là-dedans, et aussi vous dire comment finalement les regarder, si et dans quelles conditions vous pouvez les regarder. Ça va être le cas pour l'épisode d'ici, vous allez voir que c'est à la fois facile, puisqu'il est sorti en DVD, mais pas facile.
Non, du tout.
Voilà. Et on va commencer par le début, hein, c'est la meilleure des choses, hein, je pense.
Oui, je pense aussi.
On va parler très rapidement de Nigel Neal, mais on va déjà vous présenter donc, l'histoire d'aujourd'hui, qui s'appelle
The Crunch.
Alors donc, The Crunch, qui est donc un téléfilm en deux parties d'à peu près 50 minutes.
Oui.
Il n'est pas trop long.
La première partie est légèrement plus longue que la deuxième.
D'ailleurs. J'avais l'impression, ouais.
Oui, non, j'ai vérifié le timecode, on était à les 30, presque 30 minutes, 27 minutes et quelques pour la première partie, et à peine plus de 25 minutes, enfin à peine plus de 20 minutes pour la deuxième, donc sans compter les... comment... Et générique.
Oui, et puis
d'ailleurs, le générique du milieu a été coupé.
Oui, bah, à mon avis, il n'y en avait pas.
Ah, il n'y en avait peut-être pas, effectivement.
Parce qu'à mon avis, non. Enfin, on en reparlera un peu après.
Ce n'était pas une pause publicitaire.
C'était pas une pause. Si, il y a pas. Si, il y a une pause publicitaire dans le truc.
C'est vrai?
Ouais. Bah, à mon avis, ça a été coupé, tu vois.
Oui.
Bref. Donc, The Crunch, résumons un peu l'histoire. Ça se passe à Londres, dans le centre de Londres. La ville est embouteillée.
Oui.
À cause d'une menace terroriste, en fait. Le pays Macang, qui est une, à mon avis...
Une très jeune république.
Une très jeune république, mais c'est surtout une ancienne colonie britannique fictive, je pense. Hein,
oui.
Je ne pense pas qu'elle existe...
Qu'on peut situer plus ou moins en Asie du Sud-Est.
Voilà. Qui a fait une menace de faire exploser une bombe nucléaire au centre de Londres. Plus exactement à l'ambassade de Macang, dans les 24 heures, sauf si, bien sûr, le gouvernement britannique accepte leur chantage, quoi, enfin, de leur donner de l'argent.
Oui, ils demandent de l'argent.
Ils demandent de l'argent.
J'ai juste oublié combien de livres sterling, mais bon, c'est assez énorme pour l'époque.
Oui, c'est une grosse.
Pour l'époque, c'était assez énorme.
Donc, derrière ce titre-là se cache en fait un terme d'échec. J'avoue que je ne suis pas très calé en échec et on vient juste de regarder et j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais grosso modo, ça ressemble un peu, je crois, à une espèce... C'est un moment où les deux joueurs sont au coude à coude et soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne, en fait.
Ouais.
C'est... mais bon, je ne suis pas un spécialiste en échec, mais grosso modo, ça représente un peu cette situation où... il y a une possibilité pour que tout le monde perde et donc il y a une espèce d'ex-aequo, ou alors... Tous les deux joueurs peuvent gagner, quoi. Enfin,
Tout le monde s'en sort vivant ou tout le monde crève, en
gros. Voilà, c'est ce que l'histoire met en avant. Donc l'histoire est plutôt simple.
Oui.
Alors pour prévenir, on va faire une partie non spoiler parce qu'en fait, je trouve que ce serait vraiment dommage de gâcher la fin.
Oui,
Même
vraiment
si en soi, il
particulièrement,
n'y a
oui.
pas de révélation incroyable, c'est juste que la séquence de fin,
Est
la
très
voir pour la première
marquante.
fois sans la voir, est assez marquante. Et on fera donc une partie spoiler un peu plus tard, mais on vous dira quand, comme ça vous pourrez arrêter et vaquer à vos occupations. Voilà.
Voilà.
Est-ce que tu saurais nous parler de Nigel Neal? Pas du tout. Bon, on va
Si,
faire.
je sais parler de ce qu'il a fait, mais en tant que personne, je ne sais pas parler
En
de
fait,
lui.
c'est un scénariste anglais qui s'est retrouvé propulsé en fait à la télévision britannique, à la BBC,
En
après la guerre.
1953, en fait.
Oui, juste après la guerre, hein, quand.
Ah oui, avant, oui, effectivement, ça s'est passé avant 1953. En gros, la télévision britannique à l'époque, c'était un peu le placard de la radio
Oui, de la
britannique.
radio, oui.
C'était là où on envoyait les gens dont
On ne voulait
on
plus.
n'avait pas vraiment besoin. C'est les archives, un peu presque.
Et en fait, il s'est retrouvé là, mais je crois que lui, il voyait ça comme étant quelque chose de positif plutôt que négatif. Et en fait, Nigel Neal est surtout connu pour avoir écrit le scénario et enfin, réalisé d'une certaine manière, mais enfin avoir créé la première œuvre de science-fiction originale de la télévision britannique, qui se trouve être Quatermass Experiment,
Oui.
The Quatermass Experiment.
Et qui est en fait carrément la première histoire originale de la télévision britannique, parce que toutes les fictions auparavant diffusées à la télé britannique étaient des adaptations d'œuvres déjà existantes, donc
Ouais.
d'œuvres de théâtre, d'œuvres
Littéraire.
littéraires, voilà. Et ce n'était pas, c'était pas des œuvres créées spécialement pour la télé. Donc c'est littéralement la première série télé britannique.
Mais ça, on en reparlera.
Oui.
Parce que Quatermass,
Fera partie de nos
ça
prochains
fait partie de
épisodes.
nos prochains épisodes. C'est quelque chose qu'on adore. Mais on va revenir à The Crunch. Donc, un scénario quand même assez pessimiste
On n'a pas fini pour Nigel Neal, non?
Oui, bah, on en parlera plus tard aussi parce que le plus important c'était de le suiter.
Le situer, ok.
Et il a écrit beaucoup. On en parlera, je pense, dans un prochain épisode parce qu'il y a beaucoup à dire. Et il y a beaucoup d'informations qui sont aussi assez difficiles à trouver et j'ai pas envie de dire de bêtises.
D'accord.
Bon, donc, The Crunch, c'est un scénario qui parle grosso modo de terrorisme,
Oui.
d'appropriation culturelle,
De
de
colonisation,
colonisation.
de décolonisation.
De décolonisation sans avec bah, des dégâts d'une certaine manière.
Oui. D'appropriation, effectivement, appropriation culturelle et surtout de destruction
Ouais, de
culturelle.
destruction culturelle. Et pour un scénario de 1963, je trouve que c'est vachement couillu.
64. Bon, enfin,
64.
oui, ça change pas grand-chose, mais effectivement, c'est extrêmement. À l'époque, comment, l'Angleterre avait encore des colonies, notamment pas mal du côté de l'Asie du Sud-Est, hein, et ils étaient empêtrés plus ou moins dans une longue suite de guerres dans les colonies. Là, à cette époque-là, c'était plutôt en Malaisie, je pense, en Indonésie et Malaisie, où il y avait un conflit. Mais c'est limite presque anecdotique par rapport à la masse. Enfin, c'est à se demander si pendant le XXe siècle, il y a un moment où ils n'étaient pas en guerre,
Ouais.
que ça soit pendant effectivement les deux guerres mondiales, mais en autre temps, systématiquement dans l'est du monde, on va dire.
Oui. Bah, ils ont eu beaucoup de colonies dans ce coin-là, que ce soit
Oui.
l'Inde, la Malaisie, Hong Kong, qu'ils ont
Voilà,
gardé
oui, parce
longtemps.
qu'une grosse partie de leurs colonies d'Afrique, ils les ont quasiment tous perdues à la fin du XIXe, en fait. Donc. Enfin, la guerre des Boers, quoique c'est peut-être le début. Enfin bref, de toute manière, ça c'était déjà derrière eux à ce
Ouais.
moment-là. Ils étaient vraiment concentrés sur l'Asie et l'Australie. Ils avaient déjà perdu les Amériques, donc voilà, c'était vraiment l'Asie et l'Australie. Et effectivement, peu à peu, tous les pays, un peu partout dans le monde, comment devenaient indépendants. Bah, notamment en Belgique, ça date des années 50, donc le Congo a pris son indépendance. Donc ça faisait partie d'un moment de décolonisation globale des pays. Mais les décolonisations ne se passaient pas forcément toujours bien,
Oui, c'est vrai.
du tout. Et là, ce pays imaginaire, le Mekong, a priori, autant la colonisation que la décolonisation s'est moyennement bien passée.
Oui.
Parce que c'est une très jeune république. Qui a été
C'est une
finalement,
île.
c'est une île, oui, qui a été finalement dominée d'abord par les Anglais, puis après, lorsque les Anglais ont dû partir, C'est un militaire qui a pris le pouvoir, un ancien combattant lors de leur révolution. Et c'est symptomatique, bon, ça c'est une critique très occidentale, du fait qu'une grande partie des pays colonisés lors de la décolonisation ont été quasiment aussi assez vite sous le joug de dictature. Voilà. Donc ça c'est, on voit bien que ça date vraiment de cette période-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a déjà des réflexions. Najni fait déjà énormément de réflexions sur l'après et sur la manière dont les gens, les colonisés, on va dire, ont pris cette histoire.
Oui.
Et c'est une preuve énorme de, comment dire, d'empathie par rapport au peuple.
Excusez-nous, on nous appelle.
D'accord.
D'empathie par rapport au peuple.
Je sais plus. Oui, d'empathie par rapport au peuple en fait, anciennement colonisé.
Ce qui est très intéressant dans ce scénario, parce que ça date de 63. Bon, c'est vrai que quand on ne l'a pas vu... 64, oui.
C'est Doctor Who en 63.
C'est Doctor Who en 63.
Mais on a l'habitude de faire des podcasts sur Doctor Who, c'est pour ça.
En fait, la première fois... Parce que moi, c'est la deuxième fois que je le vois. Mm-hmm. D'ailleurs, il est passé beaucoup plus rapidement pour moi que la première fois.
Oh
moi,
il m'a pas semblé très long.
Il m'a pas semblé très long, mais tu vois, en fait, il y a des moments où je me suis dit, ah, ça me paraissait plus long, et là, soudainement, la fin, elle m'est arrivée très vite, quoi. Mm-hmm. Ça m'a pas autant moins marqué, hein, pour autant. Mais pour un programme de cette époque-là, même si, par exemple, les acteurs, bon, il n'y a pas beaucoup d'acteurs asiatiques, par exemple, qui sont utilisés, il y en a quelques-uns. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais.
La seule personne, c'est le président militaire, un peu, qui est. À mon avis, métisse.
Oui, c'est fort possible.
Dont les traits ne sont pas hyper marqués. Faudrait vérifier, en fait. Mais c'est sinon, les autres savoir, ne sont pas oui. du tout asiatiques.
Mais ça ne m'étonne pas pour cette époque-là, parce que je ne vais pas reprocher. Même à l'heure actuelle, on a du mal à avoir des acteurs, de différentes cultures mélangées, quoi.
Les épisodes plus... Doctor Who avait réussi à le faire dans l'épisode Marco Polo. Il y avait eu quelques Asiatiques, acteurs asiatiques, mais il n'y en avait pas eu énormément non plus.
Mais bon, ça, c'est pas à ce niveau-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le scénario n'est pas raciste.
Non, du tout.
Que ce soit envers les Britanniques ou envers la République de Macomb, qui est fictive, hein, mais qui représente grosso modo les colonies de cet endroit-là. Mais elle n'est pas du tout raciste, elle n'est pas du tout négative, même sur le retour à leur culture. En fait.
Voilà, tout à fait. Et surtout, le terrorisme n'est pas montré de manière... d'ailleurs, c'est quelque chose qui passerait un petit peu plus mal maintenant, c'est que le terrorisme... En fait, on a presque envie d'être d'accord avec eux,
oui,
tu vois, à un moment donné. On est content qu'ils reviennent à la raison, mais on peut comprendre leur motivation. Dans leur manière de procéder. Ce n'est pas...
En fait, ce qu'ils font, c'est négatif, c'est mal, mais ils s'en aperçoivent.
Oui.
Ils en sont conscients. Mm-hmm. Et surtout...
Il n'y a qu'un personnage qui est complètement fanatique.
Oui,
Les autres sont beaucoup plus modérés, et c'est pas parce qu'ils sont modérés qu'ils n'ont pas d'attachement à leur culture, au contraire. C'est limite, ils en ont pas plus encore.
On va prendre un peu l'histoire dans l'ordre. Donc, malheureusement, la copie n'est pas d'excellente qualité, parce que c'est donc un programme qui, pour être sauvegardé, a été filmé via un écran, comme ça se faisait à l'époque à la télé, c'est-à-dire qu'on avait un matériel spécifique. C'était un écran de télé qui était un peu construit d'une manière un peu spécifique. Mm-hmm. Et une caméra 16 mm ou 35 mm qui pointait vers la télé, et donc le programme était enregistré de cette façon-là, puisque c'était vraiment le seul moyen donc d'enregistrer sur le long terme des programmes. Et donc la qualité n'est pas extraordinaire à cause de ça, c'est ce qui est dommage. Mm-hmm. Le son n'est pas aussi extraordinaire, mais bon, il est quand même compréhensible, je dirais. Et malheureusement, le DVD qu'on a est le seul DVD qui existe et pas sous-titré, ne serait-ce qu'en anglais. Et ça, c'est vraiment dommage, ne serait-ce que pour les personnes malentendantes britanniques.
Oui, mais c'est souvent le cas des DVD de Network. Hein.
Oui, c'est malheureusement. C'est dommage. Ils ne font pas l'effort. Donc, c'est un peu difficile à suivre. Mais grosso modo, l'histoire commence dans une rue londonienne qui semble un peu désertée, mais où les gens semblent vaquer à leur occupation, alors qu'on entend partout des bruits de klaxon, on se demande un peu pourquoi alors qu'il n'y a pas de voiture. Et on voit juste un livreur de lait qui vient déposer le lait devant une ambassade, puisqu'il y a un drapeau en façade. Et alors que deux personnes qui se croisaient dans la rue se retrouvent donc au coin, on voit que des militaires sont planqués avec des armes, avec des canons anti-aériens, enfin bref, du vrai matériel militaire. Et le livreur se fait jeter par la porte.
Oui, le pauvre, mon Dieu, il a la tête toute ensanglantée.
Voilà, et on voit dans une des bouteilles cassées qu'il y avait un dispositif, probablement un micro ou quelque chose, un dispositif d'espionnage. Et c'est là qu'on comprend en fait que cette ambassade en fait est le centre de la menace terroriste qui menace Londres, et que les militaires sont en train d'essayer d'évaluer la situation. Le Premier ministre est présent. Vu la gravité, le Premier ministre essaye de comprendre.
Il est même revenu de New York, si j'ai bien compris.
Oui, il est revenu de New York spécialement pour ça, sans même savoir vraiment trop ce qui se passait, mais quand il a vu la menace.
Ça semblait sérieux, en tout cas.
Ça semblait sérieux. Les militaires aussi sont assez nerveux, presque le doigt sur la gâchette, quand même.
Oui, parce que, a priori, on aurait ressenti des rayonnements nucléaires.
Disons qu'il y a une période. En fait.
Tu vois ce que je veux dire.
Oui, et en fait, ils n'arrivent pas à savoir s'il y a vraiment une bombe nucléaire dans la cave ou pas, parce que tout semble protégé. Et les personnes qui ont travaillé sur la construction d'un coffre, en fait, en sous-sol, ont été retrouvées et disent qu'il n'y a aucun moyen d'ouvrir le coffre sans connaître la combinaison et qu'ils ne savent pas exactement ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, quoi.
Ouais.
Et donc, par rapport à ça, l'ambassadeur essaye d'avoir un dialogue avec le Premier ministre. Dialogue qui se fait.
De manière assez cordiale, finalement.
De manière assez cordiale. Et le Premier ministre essaye, bien sûr, de trouver un arrangement qui éviterait un bain de sang. Puisque si les terroristes font sauter une bombe dans Londres et détruisent une partie de la population...
Oui. Parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte que c'est bien une bombe thermonucléaire.
Voilà,
hein.
Pour leur propos, les Anglais, eux, sont préparés à partir en guerre et à oblitérer l'île de Macang, quoi,
dans les minutes qui suivent. Ce qui apparemment ne serait pas très long, voilà, c'est ça.
Voilà.
Une douzaine de minutes pour envoyer des missiles et aller quelques heures pour que le reste de
l'armée
débarque. Quoi.
D'où le nom de Crunch, puisque littéralement, c'est ce qui se passerait si jamais le pire scénario venait à être exécuté.
C'est que tout le monde crève.
Voilà. Au niveau du casting, il y a quand même pas mal de noms, disons, connus de cette époque-là. Je crois que quasiment tous les acteurs sont décédés maintenant.
Oh, c'est fort probable.
C'est fort possible. Le Premier ministre est joué par l'acteur Harry Andrews, qui a fait beaucoup de films de guerre, d'ailleurs. Pas que. Personnellement, je n'en ai pas vu beaucoup de ses films, mais c'est un acteur britannique que je reconnais, en tout cas. Comment il s'appelle ? L'ambassadeur est joué par Maxwell Shaw, qui lui a été vu dans beaucoup de productions britanniques, c'est normal,
mais
notamment UFO de Gerry Anderson. Il y a aussi Anthony Bushell, qui est un habitué au rôle de militaire, je crois, parce que je l'ai souvent vu dans ce rôle-ci. D'ailleurs, il jouera dans le troisième Quatermass and the Pit, un rôle assez similaire.
Oui, c'est limite s'il n'a pas gardé le costume, quoi.
Oui, c'est presque ça. Et enfin, nous avons aussi, dans les personnages principaux, Peter Bowles, qui est aussi un acteur britannique que vous avez probablement vu dans les séries comme Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Enfin bref, il a un visage assez reconnaissable. Mm-hmm. Il a joué dans Cosmos aussi, il me semble.
Mm-hmm.
Donc, on a de bons acteurs, on a un bon scénariste, on a une histoire vraiment très profonde, disons, pour l'époque.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce que tu en as pensé globalement ?
Oh, ben, c'est quand même une claque.
Oui.
Ça, oui. Effectivement, le début, t'as un peu du mal à rentrer, parce que niveau rythme, effectivement, c'est pas du tout à ce qu'on est habitué à avec les fictions modernes, même si
et
ça reste assez rapide.
Le fait de pas avoir de sous-titres aussi.
Il y a pas de sous-titres, et au tout début, il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps, donc...
Ouais.
J'étais bien contente que tu l'avais déjà vu une fois pour m'introduire un peu à l'histoire, mais assez rapidement, le jeu des acteurs fait beaucoup, notamment l'ambassadeur qui est vraiment, vraiment super bon. La discussion entre l'ambassadeur et le président du Macang est très intéressante. Parce qu'on voit... parce que on l'a pas précisé, mais le président de Macang est dans la...
Dans la maison aussi.
Dans la maison aussi, hein, dans l'ambassade. Mais il est pas supposé être su qu'il est là, en fait.
En fait, ils sont pas sûrs, et quand ils le savent, ils veulent rentrer en contact avec lui, pensant que c'est la tête pensante.
Oui.
Mais c'est l'ambassadeur qui joue le jeu, en fait,
Oui.
qui manipule tout le jeu, en fait, plus que le président.
Oui.
Le président est plus un instrument par l'ambassadeur.
Oui. Mais le président, à un moment donné,
Bah, pète un câble.
pète un câble, voilà. Et justement, au moment où le président pète un câble, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué énormément. C'est du coup, la première discussion entre le président et l'ambassadeur qu'on voit, c'est comment l'ambassadeur qui accuse le président d'être hyper nerveux, d'être très haineux envers les Britanniques, alors que lui-même n'a pas connu la période où ils ont été où ils ont été soumis à la colonisation dure.
Il a subi la colonisation, mais pas, il n'a pas vu la guerre et l'arrivée des Anglais, en fait.
Voilà, c'est ça. Alors que lui-même l'a connu et il est beaucoup moins haineux. Lui, son but, effectivement, il a une bombe, mais il veut pas spécialement la faire exploser. Il veut surtout avoir l'argent et reconstruire son pays.
Et donner une bonne leçon aux Anglais, en
Et
fait.
donner, voilà, c'est ça, leur donner une bonne leçon, montrer ils peuvent compter sur la scène internationale. C'est très important pour lui de montrer que son pays peut avoir sa propre voix
Bah,
et ne pas avoir la voix des Anglais.
et qu'il est devenu une puissance nucléaire.
Voilà, c'est devenu puissant. Effectivement, oui, c'est
Parce
vrai,
qu'il
il
le
le dit.
précise. Enfin, le Premier ministre lui demande, vous êtes devenu une... Alors, vous êtes devenu une puissance nucléaire, et il répond, c'est grâce à vous quand vous nous avez colonisés.
Oui. Et il est sous-entendu aussi que aussi bien le président du Mekong que l'ambassadeur ont fait leurs études en Angleterre.
Ouais.
Ce qui est effectivement très, très symptomatique
Enfin, le
de
président,
l'époque.
j'ai un doute.
Et présent, j'ai un doute aussi,
Parce qu'en
mais.
fait, il dit qu'il a travaillé dans les mines de tin.
Ah.
C'est pas éteint? Si, c'est éteint, je crois, en tin. C'est ou de l'aluminium. Enfin, c'est
Oui.
la matière qu'on utilise pour les bois de conserve.
Ouais, du fer blanc.
Oui, voilà. Et en fait, il a travaillé, il a été écrasé dans les mines d'une certaine manière. Et c'est de là
Oui.
que vient sa haine, en fait, de
Oui.
son travail forcé dans les mines. Puisque en fait les Anglais ont utilisé cette république, enfin cette île en fait pour exploiter les ressources.
Oui, un peu comme la Belgique a utilisé le Congo.
Voilà. Et c'est en ça qu'on voit que les deux, l'ambassadeur et le président, n'ont pas le même ressenti envers l'Angleterre et surtout leur volonté de se libérer n'est pas due à la même chose.
Non. Non, parce que l'ambassadeur, qui est plus un intellectuel, qui a étudié, je pense qu'à un moment donné, je ne sais plus s'il précise Oxford ou Cambridge, mais il précise l'un des deux en tout cas.
Oui.
Et il veut montrer que sa propre culture peut avoir droit de cité. Il est extrêmement attaché au fait de relancer la culture. Par exemple, il veut rejeter leur nom. Les noms qui ont été imposés par les colonisateurs, je veux dire, le président, il s'appelle Johnson, quoi.
Oui.
C'est pas un nom qui est. Il précise bien que c'est un nom
Qu'on leur a
qu'on leur a
imposé.
imposé. Et donc, il veut récupérer les noms, il veut récupérer les cultures, les religions, la manière de vivre qu'ils avaient avant la colonisation. Donc, il y a vraiment une idée culturelle derrière les. Comment. Derrière la volonté de l'ambassadeur. Ce que, à peu près, en tout cas actuellement, tout le monde trouvait ça tout à fait louable, même si ses méthodes ne le sont pas.
Alors que le président, lui, c'est une revanche qu'il veut reprendre.
Oui, c'est ça,
Il
c'est
veut
une
prendre une
revanche.
revanche, se venger de ce qu'on lui a fait subir.
Voilà, la vengeance de l'ambassadeur est plus subtile. Il veut juste donner une bonne leçon, partir avec le fric et reconstruire le pays. Alors que le président, pas tellement.
Oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait, à mon avis, la force de ce scénario. C'est d'une part de ne pas montrer simplement les terroristes en tant que méchants.
Agro, on va faire tout péter.
Voilà, et il faut les arrêter, et c'est nous qui avons raison.
Ouais.
Ça donne plusieurs visions de l'impact que les colonies ont, de manière générale, sur des peuples. La manière dont certaines personnes le perçoivent, c'est jamais positif, de toute façon, une colonie. Et surtout, bah, faut pas oublier que c'est 63, quoi. Et moi, c'est
64.
64, oui, bah, putain, je ferai tout l'épisode.
Oui, je pense aussi.
C'est quand même assez incroyable qu'en 64, on ait un message qui soit beaucoup plus percutant, qui soit beaucoup plus réfléchi et raisonné
qu'énormément de fiction post-11 septembre.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, je sais pas si on oserait faire ça, en fait, à l'heure actuelle. Je sais qu'on peut avoir ce genre de raisonnement, parce que c'est normal quand on y réfléchit, quand on réfléchit à la question.
C'est le raisonnement posé.
Mais je ne sais pas si on serait capable, disons, de le montrer de cette façon.
Que Nigel Neal aurait été traité de social justice warrior.
C'est fort possible. C'est fort possible parce que si on le met dans notre contexte actuel où il y a encore des ressentis par rapport aux colonies qu'on a pu, hein, parce que je crois plus qu'il reste encore une colonie à l'heure actuelle. Enfin, je crois pas.
Non.
Non.
En tout cas, ben si on peut considérer que les dom-toms, ça reste toujours des colonies, mais bon, ça c'est.
Ouais, c'est vrai, mais de loin, enfin, c'est plus sous la forme. Disons que maintenant.
On n'est pas
Enfin,
assez
je sais que
informé
pour la.
là-dessus. On
Ouais,
sait.
c'est vrai.
Ouais.
Je dirais
Honnêtement,
que.
on dit probablement des conneries.
Ouais, on dit probablement des conneries, mais je dirais que pour la France, on a quand même intégré de manière officielle ces régions-là, même si c'est vrai qu'on a tendance à les laisser un peu de côté.
Oui.
C'est vrai que c'est un gros problème.
Vous ne pouvez pas le voir, mais mon expression est dubitative.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais ça, pour ça, il faut laisser passer parler les personnes concernées, je dois dire.
Oui. L'Angleterre, bah, ils ont plus ou moins une sorte de Commonwealth, mais c'est plus avec autant d'ingérence. On va dire que la reine, effectivement, est toujours la reine de certaines des anciennes colonies,
Ouais, c'est vrai.
mais ce n'est plus. L'Empire britannique n'existe plus, ça
Non,
c'est
ça c'est
certain.
certain, oui. Et donc, en fait, je trouve que ce scénario-là, je crois qu'on aurait du mal à le passer à la télé à l'heure actuelle parce que on aurait du. Enfin, je sais
Déjà, on
pas,
n'a
il y
plus
aurait.
autant peur de la bombe atomique, donc c'est un truc qui est.
Oh, je sais. Non, c'est vrai que c'est trop loin pour la plupart des gens pour que ce soit une vraie peur, tu vois.
Oui, à
C'est-à-dire que ça
l'époque,
peut
c'était une
tomber d'une
terreur
main.
totale,
Oui, c'est ça.
hein.
C'est vrai que là, c'est encore très récent dans l'esprit des Anglais qui ont vu ça, surtout à Londres,
Oui.
hein, parce que Londres a été vachement touchée par les bombardements pendant la Seconde Guerre, donc ce qui fait que c'est vrai que ça, c'est une peur
Et puis
qu'ils
même
avaient.
à une certaine époque, il faut penser que jusque dans les années 70, 80, on n'arrêtait pas de parler en permanence de Ah, il se pourrait qu'un jour une bombe nous tombe sur la
Ah bah
tête
c'est la guerre froide, hein.
si les Américains et les Russes font une connerie.
Bah c'est la guerre froide,
Je
hein.
me souviens que ma mère m'expliquait que quand elle voyait le ciel rouge quand elle était petite, elle se demandait si c'était pas des bombes. Alors ça n'avait rien à voir. Mais c'était tellement imprégné, on en parlait tellement en permanence à ce moment-là, que ça faisait partie vraiment de l'imaginaire collectif. Et des peurs collectives des Européens à l'époque, globalement. Parce que l'Europe a toujours été au milieu des deux, quoi.
En fait, nous on le regarde avec un œil moderne. On peut pas faire autrement. On n'était pas né en 64. J'ai réussi.
Bien.
En 64, quand ça a été diffusé, on n'est même pas anglais.
Honnêtement, on n'a même pas connu, nous, la guerre froide,
On
parce
n'a
que
même
toi,
pas. Ouais, moi
tu
je suis
es
né
né.
juste à la fin.
Voilà, c'est ça. Et moi, j'étais même pas née.
T'étais même pas né. Et donc on a vu quand même, on a vécu quand même dans une période de paix, puisque mis à part en 2001, à partir de 2001 où il y a eu les attentats à New York, il y a eu d'autres attentats, hein, cela dit,
Oui, on va
mais
dire
c'est
qu'il y a
quand
eu
même.
10 ans, 10 ans globalement de calme. Quoique, pendant ces 10 ans-là, il y a quand même eu la guerre du Golfe.
Ouais, c'est ça, il y a quand même eu des guerres, mais en fait, je pense que pour notre génération, la plupart de ces guerres, ça semble être dans le pré d'à côté.
Oui.
Ça semble pas nous toucher, en fait. C'est un peu, ah, c'est entre ces pays-là qu'ils se font la guerre. Nous, on intervient peut-être, mais un peu comme les flics pour dire, hey,
Ouais.
faut arrêter. Et si on le met dans le contexte actuel, je dirais que le scénario fait toujours sens. Même par rapport aux attentats de 2001 ou à d'autres attentats plus
Oui,
récents.
parce qu'après tout, s'il y a bien un gars qui a été étudié en Angleterre et qui a été, il y a eu un mode de vie occidental une grande partie de sa vie avant de devenir le plus grand terroriste du XXIe siècle, c'est bien Oussama Ben Laden. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il est étudié en Angleterre.
Et c'est connu, c'est sûr, quoi.
Et
Enfin.
sa famille était extrêmement riche et l'avait envoyé, lui, ses frères, ses sœurs, je ne sais pas quoi, étudier en Occident sans
Oui,
problème.
c'est ça.
Enfin, je veux dire, il y a aussi comment la plupart des enfants des dirigeants du Congo, même lorsque le Congo n'était plus belge, ont étudié en Belgique, y compris dans mon collège.
Oui.
Donc.
C'est vrai. Et je serais curieux de voir en fait ce que donnerait une adaptation moderne de ce scénario. Est-ce qu'on irait dans le même dans la même direction, c'est-à-dire à
avoir... Quand tu dis moderne, en plaçant l'histoire...
À notre époque, si on devait faire un remake, tu vois.
Oui, parce ça serait pas aussi subtil.
Bah, justement, c'est ça que je me pose comme question. C'est difficile de répondre, parce que bien sûr, ça dépendrait de qui le fait.
Oui, parce qu'il y a plus de ressenti contre les terroristes actuellement qu'à l'époque.
C'est vrai.
C'est limite si... c'est comme quand t'écoutes... oula, la référence va être tout à fait perchée. Quand tu écoutes la comédie musicale Starmania, qui a été montée du côté des fin des années 70, où le personnage principal est techniquement un terroriste.
Oui.
Le personnage de Johnny Rockford. Mais il est montré comme un héros.
Oui.
Parce que c'est un peu le chevalier qui défie l'ordre établi, contre un gouvernement qui n'est pas tout à fait clean, on va dire.
Ouais.
Et il y a une certaine romantisation de ce terroriste, qui a effectivement des idées qu'on peut comprendre, et qui a aussi des idées des manières de faire assez toutes pourries, qui le paie à la fin, mais bon, bref. Mais c'est... On avait encore une vision du terrorisme qui est effectivement... Bah oui, bah c'est les petits gars avec... des moyens artisanaux qui essayent de faire chier le monde, quoi. Et on n'avait pas une vision d'horreur suprême. Même s'il y a eu beaucoup d'attentats très meurtriers pendant ces années-là, mais vu que c'était moins rapproché, on en parlait moins, on avait beaucoup moins de possibilités d'informations. Je veux dire, quand il se passait un truc en Espagne... On se disait, bah oui, c'était en Espagne. On n'avait pas une proximité entre les pays aussi forte, alors que quand ça arrive aux États-Unis, tout le monde était scotché
c'est aussi la façon dont ça a été médiatisé.
Oui, on a tous été scotchés devant nos écrans. Enfin, je sais pas, moi aussi, ouais, complètement. Quelques années après, il y a eu l'Espagne, il y a eu l'Angleterre. Puis après, bien après, il y a eu toute cette suite d'attentats en France et en Belgique. Et tout le monde... se sentait à chaque fois, même si ça se passait pas dans ton pays, tout le monde se sentait impliqué,
oui.
Ce qui n'était pas forcément le cas avant, et effectivement les terroristes ont cessé d'être des figures un peu glamour du rebelle qui défie l'autorité, c'est devenu objectivement des sombres connards.
Oui, qu'importe ce que tu fais, je pense que maintenant, quand on parle de terrorisme, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est mauvais.
C'est comme, j'ai toujours une espérance profonde, parce que j'adore Starmania, de voir un jour une adaptation cool de cette comédie musicale, mais je sais que c'est profondément impossible.
Bah, disons qu'il y a plein de choses qu'il faudra modifier pour que ça passe maintenant à
l'heure actuelle. Voilà, et du coup, ça ne passerait plus.
Parce qu'ils font exploser une tour aussi.
Hein. Oui, ils font exploser une tour, effectivement, à la fin.
Mais non, en soi, ce qui est intéressant, justement, de le voir avec des yeux modernes, et je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi des gens encore plus jeunes qui en parlent, s'ils ont l'occasion de le voir. Parce que nous, on a été pile poil on a vu les attentats du 11 septembre quand on était très jeunes. Ça a été fortement médiatisé comparé à beaucoup d'attentats où c'est juste une bombe qui explose et qu'on voit que juste le résultat, c'est-à-dire les pompiers. Mais c'est fait, en fait, l'événement, c'est passé.
Oui,
c'est
alors que là, on l'a vu en direct, on a
alors
vu les avions...
Alors que c'était en direct, on a vu tout arriver, et ça a été long, en fait.
Oui.
La particularité de cet attentat, c'est qu'il a été très long. Le temps que les tours s'effondrent, que les gens évacuent New York, on a vu...
Que les gens tombent des tours.
Voilà,
personnellement, ce n'est pas les avions qui se crachent dedans qui m'a le plus effrayé à l'époque. C'est les gens qui se jetaient.
Et donc, résultat, on a une vision très, très spécifique par rapport à ce genre d'événement, ce qui fait que c'est quand même difficile. Alors que dans The Crunch, ça reste quand même... Il n'y a pas l'attentat, mais il y a la menace. Mais résultat, si la menace devait être exécutée, ce serait une bombe, certes nucléaire, qui détruirait une bonne partie de Londres et de la banlieue londonienne,
parce que
c'est quand même une grosse bombe qui... Et puis ça fait des dégâts. Mais ce serait aussi un événement unique. C'est-à-dire qu'une fois que la bombe explose...
Ah ben c'est fait.
C'est fait, quoi. Et comme dit à un moment le Premier ministre, parce qu'il y a un militaire qui veut le faire partir... le Premier ministre répond « Mais il peut y avoir d'autres Premiers ministres, on peut le remplacer, alors qu'on ne peut pas remplacer Londres. »
Oui.
Et je trouve que, d'ailleurs, la manière est très réaliste, la manière dont il réagit, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à faire évacuer des dirigeants, alors qu'au final,
Oui, c'est un mec, ça se remplace, surtout, la reine qui était déjà, d'ailleurs, à l'époque, Elisabeth II, parce que, effectivement, le côté symbolique de la mort d'une reine, c'est comme le président des États-Unis, on évacuera toujours le président des États-Unis. Mais un premier ministre a moins d'impact et un premier ministre sera plus facilement sacrifiable, on va dire. Mais il est terrorisé à la toute fin de il y a une scène très tendue, on va dire, où on se demande si dans quel côté ça va basculer entre l'admiration totale.
Et lui, il est terrorisé
totale.
Parce qu'il se demande.
Il tremble, il est terrorisé, il est.
Mais tout en.
Le jeu d'acteur est très bon, je veux dire, pour les.
Tout en se contrôlant, quoi. Il n'est pas non plus.
Il ne se roule pas par terre.
Il ne s'effondre pas, quoi.
Mais on sent qu'il a une tension en lui, il garde le cap, mais il tremble.
Oui.
Et d'ailleurs, le jeu d'acteur est vraiment.
Il est vraiment très bon.
Globalement, il n'y a personne qui joue mal.
Un détail dont on n'a pas parlé, c'est que les journalistes ont une petite importance, disons, dedans.
Oui.
Puisqu'à un moment, la presse donc annonce ce qui se passe pendant que les militaires sont en train d'agir en disant qu'il y a une menace terroriste, on ne sait pas vraiment trop ce qui se passe. Et en fait, pendant le premier épisode, un journaliste arrive à se connecter sur la radio des militaires.
Oui.
Et un militaire lui explique que non, il n'a rien à faire là. Pendant qu'un de ses collègues lui explique comprend mal un des messages en fait qu'on lui a fait parvenir et pense que la situation est finie. Et en fait, on ne le sait pas tout de suite, mais le journaliste est toujours à la radio et entend ceci.
Oui.
Entend les militaires, disons, se réjouir sur quelque chose. Et donc, le journaliste diffuse l'information après, comme quoi la menace a été arrêté,
oui,
juste au moment où c'est pas le cas.
Où c'est pas le cas, oui. Et justement, les journalistes avaient bien compris que c'était effectivement une menace thermonucléaire.
Oui.
Et du coup, ils le disent à la population. La population, en dehors de cette petite bulle dans Londres qui est complètement
Se réjouit,
en lockdown, la population est en pleine liesse, en mode « Oh, on a failli crever, on le savait pas, mais faisons la fête maintenant, quoi !»
Ouais, c'est ça. Et pendant ce temps-là, t'as même la femme du Premier ministre qui l'appelle pour un peu le féliciter.
Oui.
Pendant que lui est en train de se dire « Ouais, mais je peux pas te parler maintenant. » Et il finit la conversation en disant « Goodbye, my darling. »
Oui.
Dans le sens « Adieu. »
Oui.
C'est très percutant parce que lui sait, mais il va pas le dire à sa femme non plus.
Oui.
D'une certaine manière, pour dire « Vaut mieux que les gens meurent en croyant que c'est bon plutôt qu'ils meurent dans la terreur. »
Oui, d'ailleurs, cette scène-là répond finalement à l'adieu aussi de l'ambassadeur à ses enfants, parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas si tout le monde va mourir ou si tout le monde va survivre. Parce qu'il est avec sa femme et ses deux filles, deux petites filles. Et il a des gestes extrêmement tendres envers ses enfants et envers sa femme. À un moment donné, j'ai cru que sa femme allait lui en balancer une en mode « T'as vu dans quoi tu nous as amené ?» Mais en fait, non, elle ne le fait pas. Mais c'est effectivement une scène très touchante et assez prenante à ce moment-là.
Je pense que maintenant, on va parler de la fin. Donc,
oui,
si
parce
vous
que là, là, on ne sait plus en dire plus sans spoiler. Et toi, t'en as pensé quoi, vu que...
Je vais en parler pendant le spoil.
Oui, en gros, on a quand même tous aimé. Hein.
Oui, on a tous aimé. Toi, c'était ton premier visionnage. Moi, j'ai encore plus aimé, en fait. Je dois bien avouer, quand même. Je trouve que c'est un scénario qui est vraiment super culotté pour l'époque. Mais vraiment... pour 64, avoir un tel recul sur une situation similaire, enfin sur la colonisation, sur ça, sur ce genre de sujet, c'est waouh. Ce qui prouve bien que notre façon de penser, notre recul, notre vision justement de ce qui est mal et bien ne vient pas du 21e siècle.
Non.
C'est pas arrivé d'hier.
On n'est pas woke, hein, ou alors ouais. Nigel Lee était le premier des woke. Hein.
Ouais. Mais donc, ce qui prouve bien que tout le temps, il y a eu des gens qui comprenaient bien que certaines choses étaient mauvaises, quoi qu'il arrive. Ouais.
Remarque, je me demande s'il n'a pas fait un voyage dans le temps, Nigel Lee, parce qu'il a quand même critiqué la télé-réalité avant que la télé-réalité n'existe.
Hein. Oui, ça, c'est encore autre chose. Mais on en parlera. Hein. Moi, j'ai ce qui m'a plus marqué, je crois, quand je l'ai vu la première fois, c'est surtout la fin.
Et spoiler à partir de maintenant.
Voilà. Et maintenant, on va parler spoiler. Donc, si vous
merci de nous avoir écouté les
voilà.
autres.
Si vous avez envie de continuer, continuez. Hein,
dites que vous allez jamais le voir. Bon.
Avant les spoilers, on devrait dire quelque chose avant. Comment le voir? Parce que ceux qui veulent peut-être le voir.
Les gens, ils sont déjà partis, ceux qui voulaient pas de spoil.
Eh ben, tant pis. donc, ceux qui veulent le voir, il a été édité en DVD donc, par Network. qui a édité beaucoup de programmes et qui édite en fait la majorité du catalogue ITV,
Oui.
qui appartenait à Carlton avant. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres.
Oui.
Et pour moi, c'est, je parle vraiment de difficulté et pas juste de frein, parce qu'en fait, le son est pas extraordinaire.
Non.
La copie qu'ils ont, à mon avis, c'est la seule copie de toute façon qui existe, est pas extraordinaire. La qualité d'image est correcte pour l'époque. C'est normal qu'elle soit comme ça.
Mais ça pique un peu sur un écran, un grand écran.
Ouais, mais ça va encore, quoi. Je veux dire,
Sur
y a
un écran
pire.
d'ordinateur, ça pourrait mieux
Ouais.
passer, je pense.
Honnêtement, il y a pire.
Oui.
Honnêtement, il y a pire. C'est juste que c'est comme
Oh
ça qu'on
oui, il y a
sauvegardait à
certains
l'époque.
quatermasques qui sont bien pires.
Oui. Tout ça, c'est très technique. Et donc, le truc, c'est que, bah, comme il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps au début, il y en a beaucoup, notamment un personnage dont on n'a pas parlé, qui est en fait un espèce de pseudo-spécialiste sur la République de Macang,
Oui,
qui est
en
en
fait c'est
fait
un
un.
gros raciste, hein.
Voilà, c'était un gars qui travaillait comme étant flic d'une certaine manière à l'époque là-bas. Et donc, qui est. Ouais, c'est pas qu'il est raciste, mais en fait, c'est le genre de personne qui les aime pas, tu vois,
Ouais.
qui a mal vécu en fait cette période-là.
Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas montré positivement du tout.
Ouais, pas du tout. Et donc, bah, le problème, c'est que y a des moments, si vous êtes pas. Si vous avez quand même pas un bon niveau d'anglais, c'est assez dur à suivre. Parce qu'il y a pas mal de subtilités dans les dialogues. Forcément, pour l'époque, c'était pas vraiment
Avec ce qu'on
de
a déjà expliqué dans le
C'est
podcast,
déjà
vous
plus
devriez pouvoir
compréhensible. Voilà.
suivre, hein.
Honnêtement, vous pourriez comprendre. Mais je dirais que si vous voulez vraiment. Enfin, c'est pas le plus facile à rentrer. Je dois bien dire, toi, j'ai mis du temps avant de te le montrer parce que je savais que ton niveau d'anglais est bon. Mais je sais que même moi, par exemple, il y a des moments où je captais plus que dalle, quoi. Au début, la première fois que je l'ai vu, au début, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Et en fait, c'est vraiment le seul frein. Mais au moins, il existe en DVD. À mon avis, il a dû être retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour qu'il soit sorti. Il existe sur un DVD qui s'appelle The Crunch and Other Stories, puisqu'il y a deux autres téléfilms de Nigel Nick, dont un qui s'appelle Ladies Night, et qui est littéralement un téléfilm sur le féminisme avant l'heure. Et Gentry, qui est
Un thriller plus.
ouais, plus un thriller de suspense, avec Roger Dalton.
T'es aussi acteur.
Il a été aussi acteur, donc je vous conseille vraiment d'acheter ce DVD et de vous lancer là-dedans.
On fera peut-être une critique des deux autres un peu plus tard.
Oui, on le
Bah, c'est
fera.
peut-être pas nos priorités pour l'instant.
Non, pas maintenant. Mais si vous parlez pas anglais, en fait, pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucune possibilité, en fait, de le voir.
Non. Faut
Il
avoir
faut avoir
un
un
minimum.
minimum niveau d'anglais, malheureusement. Si vous avez l'occasion de le voir, dites-nous en commentaire, on aimerait bien savoir. N'hésitez
Donc,
pas.
on postera sans doute le podcast sur Spotify, Google, tout ça, mais aussi sur YouTube, comme ça vous
Sur YouTube,
permettra
voilà,
de
dans les
nous laisser les
commentaires.
commentaires.
Voilà, et peut-être sur Facebook aussi, on va voir. C'est le premier épisode qu'on enregistre et on n'a pas encore tout mis en place.
Non, on n'a même pas encore de nom
On
pour
n'a
ce
même pas encore de nom.
podcast.
Bref, maintenant on va passer à la
Spoiler
spoiler,
pour de
hein.
vrai.
Voilà, pour de vrai. Donc, cette fin, moi en fait, ce qui m'a le plus mis le cul, c'est la mise en scène de la fin.
Oui, la mise en scène est bonne dans tout l'épisode. Il y a
Ouais.
notamment un très beau jeu de lumière, notamment autour du personnage de l'ambassadeur, qui a vraiment des plans sublimes. Mais la fin! Oh là là, la fin!
En fait, moi, ce qui m'a tué d'une certaine manière, c'est qu'il y a un ralenti.
Oui.
Alors pour resituer, on va vous dire la fin. Donc le président en fait s'est enfermé dans le coffre avec la bombe et s'apprête à la déclencher à minuit comme prévu.
Malgré le fait que la
Bah,
négociation
elle a
monétaire
été acceptée, hein. Elle a été
avait...
acceptée.
Ouais.
Le premier ministre a signé la demande. L'argent était déjà en train d'être.
L'ambassadeur était super
Voilà,
content.
l'argent était déjà en train d'être viré. Et en fait, bah, le président, lui, était pas content parce que lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment se venger, en fait. Et donc, il décide de faire son propre coup et de se planquer. Et pour régler la situation, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que là, l'ambassadeur se dit, merde, ça y est, c'est fini, ils vont quand même détruire mon pays. Et au moment où il va poser la question au Premier ministre, le Premier ministre lui dit, si vous pensez qu'on va vous attaquer, ne vous en faites pas, j'ai donné des ordres qu'on fasse rien, même si ça déclenche la bombe.
Ouais,
Ce qui montre en fait que
grande
en
classe.
fait il est totalement de son côté et qu'il comprend bien que ce qui se passe actuellement,
C'est pas de sa
ce n'est pas
faute.
de sa faute et que ça le dépasse là.
Ouais.
Soudainement, c'est un acte de folie et c'est plus simplement un acte politique. On voit bien la nuance. Et donc l'ambassadeur décide finalement de descendre dans la tenue de son peuple.
Oui, il avait pris pour fêter finalement, pour dire de quitter l'Angleterre avec classe. Il avait pris avec lui
Une tenue
une tenue
ancestrale.
ancestrale pour bien montrer que oui, ça y est, c'était un nouveau jour et il refondait finalement la culture de son peuple, quoi.
Voilà. Et donc il descend. Ce qu'on a oublié de mentionner aussi, c'est que ce soit le président ou lui, en fait, il maîtrise un espèce d'art martial, de maîtrise de soi, plus exactement, parce que c'est pas un art de combat, mais plutôt de maîtrise de soi qui leur permet, disons, de contrôler la douleur pendant un certain temps, en tout
Oui.
cas. C'est vraiment de la maîtrise de soi. Et si le président sait le maîtriser, en fait, c'est plus pour se vanter. Alors que l'ambassadeur, lui, a vraiment gardé cette maîtrise et a gardé cette culture, en
Ah,
fait,
oui.
cet art pour se souvenir. Et il va l'utiliser, en fait, pour retourner la situation et permettre aux Britanniques, en fait, d'empêcher l'explosion de la bombe, puisqu'il ouvre le coffre, parce qu'il fait partie des rares à connaître la combinaison.
Oui, et soudain, dans une très belle lumière, il avance face au président qui le menace de tirer,
Et qui tire.
qui commence à tirer. Il est percé de balles, il est rempli de sang, mais il continue à avancer. Et là, le président, il continue à tirer, et il continue en ralenti. On voit le visage de l'ambassadeur qui se fige, et il le prend dans ses bras, et il le coince en fait.
Oui, c'est ça, pour que les militaires, en fait, aient le temps d'agir
Oui,
et tuent le président,
il tue le
parce que
président,
c'est eux qui
voilà.
le tuent.
Et il s'effondre et il est mort.
Et il est mort, mais avec le sourire.
Avec un beau sourire sur son visage et les yeux grands ouverts. Et cette scène, l'éclairage de cette scène fait partie des plus jolis trucs que j'ai vus de la télé de l'époque.
Oui.
Ça avait vraiment. C'était presque plus de la télé, cette scène, c'était du cinéma.
Ah oui, parce qu'en plus, ils
C'était
utilisent du... Enfin, c'est
un
quelque chose que j'avais.
ralenti
Ils utilisent un ralenti au
superbe.
moment où ils tirent. Bon, ils tirent la deuxième fois, mais c'est au moment où ils tirent quand l'autre s'approche. En fait, et le ralenti est progressif. On entend le son ralentir progressivement. C'est pas simplement, hop,
Oui.
c'est juste ralenti. Non, c'est le temps qui se ralentit à ce moment-là.
Ouais.
Et ça, j'avais pour quelque chose de 64, c'est super rare, en
Oui.
fait, pour la télé, parce qu'au cinéma, ça devait, à mon avis, il y avait déjà des films qui avaient déjà utilisé ce genre de procédé. Mais pour la télé, c'est quand même super rare.
Et cette scène est présente en meilleure définition, en bonus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont pas intégrée au comment.
Bah, l'épisode, ils ne
À
l'ont pas
l'épisode,
restauré.
voilà, ils n'ont pas restauré l'épisode, mais ils avaient retrouvé en 35 mm
Cette scène,
cette scène, et ils
littéralement.
l'ont restaurée, et elle est vraiment mais magnifique,
Ah
quoi.
oui,
C'est un vraiment. C'est meilleur que beaucoup de films.
oui, parce
C'est
que
vraiment superbe.
elle est très bien éclairée, elle est très bien mise en scène, elle est percutante. Elle est percutante
Elle est
aussi
bien
quand tu as vu
jouée.
l'histoire. Hein.
Ouais.
Parce qu'il faut quand même voir l'histoire
Oui.
pour. Parce que si tu vois la scène comme ça, tu te dis.
Oui, parce
Je sais
que
pas.
t'as pas commencé à avoir ton attachement pour l'ambassadeur, qui est finalement le personnage le plus aimable de tout.
Et l'impact de cette
Et
scène?
l'impact de cette scène est extraordinaire.
L'impact de cette scène est
Et
vraiment
puis,
extraordinaire.
tu t'attends pas à ce que ça se passe comme ça. Tu te dis, oui, il va se sacrifier, mais tu t'attends pas à cette manière de se
Oui, c'est ça,
sacrifier.
c'est vraiment la mise en scène qui fait que cette scène a de l'impact. C'est vraiment
Voilà.
ça. C'est pas bêtement, il rentre dans le coffre et il désarme le gars
Oh
et il
non.
meurt, quoi. Non, non, c'est vraiment que la manière dont c'est filmé, et c'est super rare. Et c'est vraiment dommage qu'il l'ait pas réintégré à l'épisode parce que je trouve que ça donnerait vraiment un gros plus.
Oui, parce que justement, la qualité est meilleure dès qu'il entre dans le coffre, et du coup, ça donnera encore plus d'impact à la première fois que tu le
Oui.
vois.
Ouais, c'est
C'est
ça,
parce que
c'est ça.
soudainement, l'image se clarifie et tu profites à fond et t'es là, waouh!
Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que c'est pas quand même une fin un peu naïve?
Oui, si, c'est une fin joyeuse, enfin plus ou moins joyeuse. Nigel Neal ne fait pas si souvent que ça des fins joyeuses,
Non.
mais peut-être qu'il était un peu obligé de le faire parce que sinon,
Bah, il fallait pas que Londres saute, je
voilà,
pense.
c'est ça. Fallait pas que Londres saute, mais il a quand même réussi à briser le cœur quand même de tout le monde. Enfin, je veux dire, j'imagine qu'à l'époque, ça a dû être pris aussi assez tristement finalement. Parce que tout est fait pour qu'on s'attache à l'ambassadeur.
Oui, et je
Donc,
serais assez curieux de savoir comment les gens ont réagi à l'époque. Je connais personne qui l'a vu.
Malheureusement, il n'y avait pas d'Allociné à l'époque pour donner son avis.
Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de Rotten Tomatoes non plus.
Non plus.
Mais je serais assez curieux de voir... Parce que... Il faut bien se dire que les trois quarts des acteurs qu'on jouait, même à mon avis, tous les acteurs qu'on jouait dans cette histoire sont morts maintenant.
Oui, c'était des habitués de la télé
Ouais, anglaise. Et je crois que, de toute façon, tous les acteurs principaux sont morts, ça c'est sûr.
Ils étaient trop âgés déjà à
oui,
l'époque. Les enfants, peut-être.
Peut-être, oui, les enfants. Et donc, résultat, mis à part les gens qui l'auraient vu à l'époque, ça se demandait. D'ailleurs, petite réflexion que je vais faire, c'est que, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast sur Quatermass, sur le premier Quatermass, et la personne commençait le podcast en disant que la manière de ce qu'on voyait, c'était pas réellement la copie du programme, mais un enregistrement du moment où le programme a été diffusé, et que donc, techniquement, ça donnait l'impression de voir un fantôme du programme.
Ah oui, oh.
Et puis, un fantôme d'un moment, en fait, oui. Plus que le moment réellement. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que, à cause du procédé qui était fait pour sauvegarder un programme et le vendre à l'étranger, ça donnait pas une qualité extraordinaire, en fait.
Non, effectivement.
Mais c'était la télé de l'époque, et on peut pas non plus demander de la acheter là où il n'y en avait pas.
Non.
Mais voilà, donc c'est une fin vraiment très percutante, peut-être un peu naïve, mais... en fait, c'est ça, c'est que la fin serait complètement différente à notre époque.
Oui. Soit elle serait encore plus naïve.
Ouais.
Tout le monde est sauvé, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Soit elle serait... Et encore, est-ce qu'elle serait vraiment à ce point trash? Je sais pas.
Elle serait pas trash, mais... C'est pour ça que je serais vraiment curieux de voir si c'est quelque chose qu'on serait capable de réadapter. Mais comment on le ferait à notre époque? Déjà, je pense qu'on arriverait quand même à faire moins aimer les terroristes.
Oui.
Parce que maintenant, on a beaucoup plus de mal avec ça, ouais, surtout si c'est des Américains. Mm-hmm. C'est quasiment impensable pour des Américains de se dire que tu pourrais être côté des terroristes. Enfin, ou du moins les comprendre.
Ouais, il y a quand même eu une série, il y a quelques années, je sais plus.
C'est vrai, il y en a eu une.
Tu te souviens de cette série où il y avait un militaire américain qui était dans une prison et puis qui revenait aux États-Unis et qu'il était passé plus ou moins du côté des terroristes.
C'est vrai, il y en a eu. Je n'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça donnait.
J'avais vu le début, mais oh là là, je me souviens plus. Je suis pas une fan de séries de guerre et tout ça, donc j'avais pas continué, mais effectivement, le pitch me semblait assez couillu. Mais je sais pas du tout ce qu'elle a donné à la terme, hein, et à quel point elle était bien, ou à quel point finalement elle rentrait quand même dans le rang. Je pense que dans mes souvenirs des critiques que j'avais entendues, c'est qu'elle rentrait quand même finalement dans le rang.
Hein. Oui, c'est ça. Je voyais pas les Américains quand même te dire « Ah ben, les talibans, ils ont raison, en fait. » Faisons sauter le Pentagone, allez. Mais ouais, en fait, c'est moi, c'est cette fin qui m'a marqué parce que je trouve que la réalisation est tellement en avance sur son temps, et c'est ça qui la rend percutante. Parce qu'au final, c'est juste l'ambassadeur qui se dit merde, c'est de ma faute si j'ai fait ça. Parce que j'étais resté sur l'idée que c'était à cause de l'ambassadeur, plein cela en fait, qu'il l'avait un peu utilisé comme outil pour ça.
Oui, bah apparemment pas. Enfin, j'ai pas.
Ouais, je crois que j'avais mal compris en fait à l'époque, okay. Et c'est ça que. Et c'est ça parce qu'il n'y a aucune info ailleurs, très rare. Il n'y a pas longtemps, j'attends qu'une biographie sur Najmeline arrive pour savoir s'il y a des infos dessus. mais voilà, j'étais resté sur cette impression. Finalement, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas et que c'était une mauvaise impression. Mais c'est vraiment cette mise en scène qui donne l'impact à cette fin, oui. Qui est juste l'ambassadeur qui se sacrifie pour sauver la situation et se racheter.
Oui, parce que dans les fictions que j'ai vues pour l'instant, j'en ai pas vu autant que toi de Nigel Neal, effectivement, il prend quand même toujours un peu soin de ses plans et tout ça, mais un plan pareil...
Ah, c'est la première fois
que ça, c'est le plus beau pour l'instant. Et pourtant, quand Thomas Cat était quand même, avait quand même des très beaux plans, mais celui-là, oh là là, il a... On va dire que les trois quarts du budget sont passés dans ce plan-là. Hein. Quoique, c'est vrai que, en général, l'ambassadeur est toujours très bien éclairé. Les scènes à l'extérieur de l'ambassade sont cohérentes par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Hein. Plan assez fixe.
Oui, c'est de la télé anglaise, quoi. Simple. C'est en studio, hein, de toute façon.
Mais ceux qui tournent, tous les plans qui tournent autour de l'ambassadeur sont toujours extrêmement bons. Et à un moment donné, il est au désespoir parce qu'il se dit « Mon Dieu, tout va casser, enfin tout va exploser ». Il est dans les escaliers, je ne sais pas si tu as remarqué, il est tout en bas des escaliers, il est pas centré sur, il est assis sur les escaliers, il est pas centré, il est contre le mur et il a l'air tellement misérable, tellement écrasé par le reste du plan. que ça donne vraiment une impression de... Bon, toute la misère du monde vient de lui tomber sur les épaules.
Ouais,
quoi.
Il est face au mur.
Et il est face au mur, exactement. Donc, en général, le reste des plans est plutôt normal, mais en général, je trouve que c'est extrêmement bien sonné quand c'est lui qui est à l'écran.
Mais de manière générale, je crois que c'est quelque chose qu'on peut dire, de toute façon, à la science-fiction ou au drame britannique, c'est que ils en font pas des caisses,
non.
Surtout pour des programmes des années 60 et 70, mais il y a toujours ce petit truc qui fait que tu te dis « Ah ouais !» Que ce soit par le scénario, avec une idée originale, souvent le cas pour Nigel Neal, ou la mise en scène où tu te dis « Ah ouais, putain, c'est bien !» parce qu'ils en font, ils le surexploitent pas, non plus. Par exemple,
ça devient pas un gimmick, quoi.
Une série comme Les Arnaqueurs VIP,
Beaucoup plus récent, il y avait
dans le premier épisode où ils faisaient... Enfin, pas que dans le premier épisode, mais ils font souvent des clins d'œil à la caméra vers le spectateur par rapport à des points précis où ils parlent vers la caméra, mais ils le font pas constamment. Ça devient pas une obligation dans chaque épisode.
Oui, ils brisent pas en permanence le quatrième mur. Quoi. Voilà. Ça devient pas un gimmick.
Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui rend la chose finalement plus percutante au moment où ça arrive. Je pense qu'on a tout dit.
Oui. Tu vois des choses j'ai l'impression qu'on a fait le tour.
Voilà.
C'était très chouette. On avait décidé de faire ce podcast parce que pour changer un peu de Doctor Who aussi.
Oui, aussi.
Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on a envie de parler dans les fictions britanniques. Et aussi pour se lancer, pour arrêter de se dire oui, on va rendre ça absolument parfait.
Parce que ça n'arrivera jamais.
Parce que ça n'arrivera jamais. On ne pourra jamais faire la chose parfaite avec le maximum d'informations. Il faudrait vraiment... écrire une thèse, quoi.
Et puis c'est des programmes qui sont, par exemple The Crunch, je crois que, mis à part dans une biographie, je sais que Toby Haddock, qui est un écrivain anglais qui est très fan de Doctor Who d'ailleurs, il est en train d'écrire un double bouquin sur Nigel Neal, mais je crois qu'il est le seul à avoir beaucoup des infos qu'il y aura dans ce bouquin, quoi. Parce que justement il fait des recherches depuis qu'il est jeune. Et il y a beaucoup de ces programmes-là où il n'y a même pas une page Wikipédia.
Voilà, c'est lui qui écrit la thèse, en fait.
Ouais, c'est ça. Il n'y a même pas une page Wikipédia, c'est quand même dingue. Si vous cherchez des infos sur The Crunch, en fait, sur Internet, c'est même très difficile. Moi, je suis tombé par hasard sur un listing Amazon, en fait. Je regardais des DVD, je crois que je cherchais le DVD de Quatermass Experiment, mais la version des années 2000. Et j'avais tapé dans les recherches. J'avais tapé dans la recherche Nigel Neal et je l'avais vu dans la liste. Et parfois, il arrive qu'il y ait des trucs qui soient listés où tu te dis, mais non, par erreur. Et en fait, oui, effectivement, c'est trois histoires de Nigel Neal. Et là, je me suis dit, ah, bah, il me le faut.
Oui, d'ailleurs, on les a achetés en même temps. On avait acheté en même temps le Quatermass.
On avait acheté The Beast aussi.
The Beast aussi.
Non, Beast, parce que il y a des trucs qu'on avait achetés à Londres au BFI aussi.
Oui, c'est vrai.
Et je ne sais plus lequel.
Stone Tapes, on l'a acheté au BFI.
On l'a acheté au BFI. Dont on parlera aussi. Bref, rendez-vous au prochain épisode. On ne sait pas de quoi on va parler, puisqu'on parlera peut-être de choses qui sont plus faciles à voir, comme Amical Manfred.
Voilà, on aura peut-être un nom.
Peut-être non, on saura peut-être, ce sera le mystère. vous nous aiderez à trouver le nom, tiens. Tiens, si c'est vous. Bah non, parce qu'on pourra pas, on pourra le poster nulle part si c'est vous qui nous trouvez le nom.
Le podcast sans nom, avec Marie et Jonathan.
Voilà. Et puis rendez-vous au prochain épisode, ou en espérant que ça vous a donné envie de regarder le programme. Et voilà, ça serait le principal. Si vous l'avez vu entre temps et si vous l'avez déjà vu ou je ne sais pas, donnez votre avis, n'hésitez pas. Et puis à bientôt au prochain épisode.
À bientôt.